parler de la prière sans prier, c'est sûr qu'en vous parlant, je suis certain que je suis en présence de Dieu. Et vous autres aussi, vous vous trouvez à vivre en la présence de Dieu. Parce que votre désir, c'est de mieux aimer le Seigneur, puis de mieux le prier. Alors, on fait une très bonne action ensemble, présentement. Je veux dire une chose qui est importante. Il y a des livres qui écrivent qu'il faut se concentrer. Je suis contre ça, pour toutes sortes de raisons. Et je vais vous dire pourquoi. On aurait beau se concentrer puis se forcer les méninges pour prier, qu'on serait toujours distrait. Qu'est-ce qui fait qu'on est souvent distrait? Parce qu'une question m'a été posée tout à l'heure semblable à ça. On est sincère, on est droit, tu sais, puis on veut vraiment bien prier, là. Mais mon Dieu, c'est donc difficile de se concentrer. Avez-vous remarqué dans l'Évangile, en nulle part, le Seigneur est venu vous dire, « Concentrez-vous, maintenant nous allons prier. » Non, jamais. Et la raison profonde, c'est qu'on ne sera jamais capable de prier dans la paix de l'âme si on ne fait pas le ménage dans son cœur. Même si on se croit une bonne personne, même si on croit qu'on est bien priant, vous savez, dans l'Évangile, il y avait deux personnages. Il y avait celui qui était en avant, puis il disait, « Vous savez, Seigneur, je te bénis. Je ne suis pas comme les autres hommes, moi. Trois fois par semaine, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais le monde, etc. » Le Seigneur, il dit, « Il n'est pas sorti justifié. » L'autre, en arrière, il a juste dit, « Seigneur, prends pitié de moi que je suis pécheur. » Puis il en était bien conscient, bien conscient. Ça, c'est une première réalité. Pour bien prier, pour se présenter devant le Seigneur, pas avec ses trophées, mais avec ce qu'on est véritablement, en vérité. Ça, c'est une première chose pour être capable de prier simplement. La deuxième, c'est de bien regarder les attaches que nous avons. Peu importe que ce soit religieux ou pas religieux, c'est les attaches qui nous distraient durant la prière. Quand vous serez bien distrait, là, vous aurez ces mouches de distraction, regardez quelle sorte de mouche que c'est. Et je vous dirai, voilà votre attache. Vous allez être surpris des fois. Mon Dieu, j'ai oublié mon plat sur le poêle. Vous allez me dire, oui, mais Jacques, c'est pas une attache, ça. C'est mon travail de cuisine. Ah oui, il y a des choses qu'il faut savoir faire dans le bon temps. Mais quand on rentre dans la prière, il faut se dégager. Se dégager. C'est pour ça que je vous ai lu le texte du temple où le Seigneur est arrivé, puis il a même pris le fouet pour débarrasser la maison pour que ce soit une maison de prière. Dans notre cœur, quand on a un paquet de préoccupations, d'inquiétudes, d'agitations, ah, là, c'est difficile. On aura beau essayer de se concentrer, mais si dans notre vie, il y a une seule attache, je dirais, au péché, même un petit péché d'amour, eh bien, on va avoir bien de la misère à se recueillir. Se recueillir, c'est prendre tous nos sens intérieurs pour qu'ils se pacifient et se mettent en la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de techniques qui sont présentées. Hindous, puis mettez-en le paquet. On est des chrétiens, puis le Seigneur a donné des choses simples. Vivre en paix, ça s'acquiert. Ça suppose un travail intérieur de combat contre soi-même, les petites attaches secrètes qu'on a, les intérêts. On est contrarié parce que quelqu'un nous a pilé sur le bout de la petite orteille. Toutes ces petites affaires-là. Puis il s'agit qu'on ait gardé une petite rancune. Puis celle-là, j'oublie pas. Oh, je lui ai pardonné, mais j'oublie pas. Ça, toutes ces petites choses-là, là, ça empêche de se recueillir. Alors, vous auriez beau prendre des méthodes. Il y a quelques années, j'ai vu quelqu'un qui se disait maître de Rose-Croix, qui vient chez une personne qui est malade. Une personne qui n'a jamais voulu pardonner. Ça faisait 20 ans. Et voici qu'il arrive avec ses méthodes de Rose-Croix. Puis il dit, je vais prier sur elle. la personne. Et moi, j'arrive, et je connaissais très bien la personne, et je connaissais très bien le problème. Et je lui ai simplement dit, vous aurez beau prier aussi longtemps que vous voudrez, la personne ne guérira pas. Et je me suis servi de l'aide des Écritures pour dire, la personne qui garde rancune dans son cœur, elle aura beau demander sa guérison, elle ne l'obtiendra pas. Et si le Seigneur a parlé de ça dans les Écritures, il n'ira pas contre sa parole. Il va l'accomplir. Alors, une rancune empêche de se recueillir, comme certains vont dire, de se concentrer. Mais ce n'est pas nécessaire. On demande pardon au Seigneur quand on commence sa prière. On se présente avec nos limites puis notre misère. Puis si on a quelque chose de très beau, empressons-nous de lui donner tout de suite parce que rien ne nous appartient. Pas même notre vie. C'est lui qui nous l'a donné. Il nous l'a prêté. Alors rien ne nous appartient. On regarde ça, on trouve ça dans les Écritures. Quand on a compris ces petites choses-là, là, on va se présenter et c'est le Seigneur. Alors j'ai la parole ici. Écoutez bien ça. N'entretenez aucun souci. Ça, c'est important. Mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. J'en dirai un petit mot tout à l'heure de l'oraison. Pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Si vous faites ça, c'est dit, alors, ça c'est une espèce de conséquence, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et si vous avez déjà expérimenté ce qu'est la paix de Dieu, c'est un cadeau formidable. La paix de Dieu prendra sous sa garde. C'est comme si la paix de Dieu était une personne. Alors, la paix de Dieu prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, si je suis à prédire mon chapelet, puis je suis toujours bourré de distractions. Arrêtez donc votre chapelet, puis faites donc un examen de conscience où sont vos attaches. Vous aurez des surprises, parce que le Seigneur vous invite à faire un ménage dans la chambre de votre cœur. C'est important parce qu'il dit, si tu pries, rentre dans ta chambre, ferme-en les portes. C'est tout ce qui touche au sens, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as touché, ce que tu as goûté. Hey, était-tu bon le repas? Je prendrais même, était-tu bonne la pomme? Hein? Était-tu bonne la pomme? Ah bon, c'est pas ça. Ça, c'est tout le domaine des sens. Comment c'est important pour y trouver la joie dans la prière et malgré les épreuves qu'on peut recevoir. Alors, je vais tomber sur une deuxième partie, mais avant, peut-être qu'il y en a qui ont des questions qu'ils voudraient poser, je vais répondre. Sinon, je vais m'aventurer dans un texte très précis d'Isaïe pour la mission.
Moi, j'ai de la misère à comprendre quand vous dites que si quelqu'un a de la rancune dans son cœur, que Dieu ne l'écoutera pas, ne lui pardonnera pas. La miséricorde de Dieu est infinie. Moi, je pense que même, si vous voulez l'expliquer plus.
Oui, très bien. Le Seigneur, sa miséricorde est infinie. Puis quelqu'un qui a une rancune, puis qui prie, le Seigneur va porter attention, mais il va l'avertir, puis il va lui faire comprendre qu'elle doit pardonner. Ça, c'est certain. Mais si la personne volontairement dit « Non, moi, je ne pardonnerai pas », elle va contre la parole. Vous pensez que le Seigneur, à cause de sa grande miséricorde, irait contre sa parole? Je vous la pose, la question. Le Seigneur n'ira pas contre sa parole. Il ne s'enlève rien à sa grande miséricorde infinie. Mais comme il laisse libre l'homme, mais il a posé des conditions pour que l'homme soit heureux. Vous voyez, c'est évident que ça a l'air un petit peu subtil, ça. Mais la rancune, étant donné que le Seigneur ne veut pas qu'on ait de rancune contre qui que ce soit, puis qu'il veut qu'on pardonne à tout homme, Il veut donc qu'on accomplisse sa parole. Si je ne l'accomplis pas, je ne garde pas sa parole. Si je ne garde pas sa parole, comment Dieu peut-il entendre ma prière? Dans Saint Jean, il dit quelque part, si quelqu'un est religieux, et il veut dire celui qui agit dans la foi, dans la pratique de la foi, et qui accomplit la volonté du Seigneur, celui-là, le Seigneur, écoute sa prière. Si vous vous servez de cette parole, et puis que vous pensez que le Seigneur va faire autrement que sa parole, c'est évident que quelqu'un qui vit dans le péché, nous, c'est pour ça que la communion des saints, la foi, la communion des saints, c'est de prier pour ceux qui sont mal pris, pour ceux qui sont têtus, pour ceux qui se détournent de la voie de Dieu. Il vient nous demander de prier. Alors, c'est nous, par notre prière, qui va aider les âmes à répondre oui au Seigneur. Le Seigneur ne refusera pas personne, mais il n'ira pas accomplir une parole qui serait contraire à ce qu'il a dit. Tu sais, je dis, oh, Seigneur, viens donc me guérir. Mais pourquoi que la personne demande au Seigneur, viens donc me guérir, quand elle a blessé l'autre, puis elle ne veut rien savoir de l'autre? Parce que c'est souvent ça qui arrive. Depuis que je vis, là, le problème le plus grave qu'on rencontre chez beaucoup de monde, c'est le pardon. On ne veut pas pardonner. On va dire, je vais y pardonner, mais je n'oublie pas.
Dites-moi, est-ce qu'on peut se permettre d'inviter quelqu'un qui nous est très cher à pardonner? Est-ce que c'est un devoir de chrétien, de chrétienne, d'inviter quelqu'un à pardonner?
En principe, c'est certainement un devoir et une obligation, quand on le voit, quand on le sait, de le faire. Mais, on appelle ça la vertu de prudence. C'est que si on sait, ou que d'autres nous le disent, que nous, que moi, en intervenant, j'aurais un effet négatif. Il vaut mieux procéder autrement. Dans ce sens-là, je dis, oui, le principe est là, mais dans la pratique, tout dépend. Si on sait qu'en y allant, vous allez avoir une réaction explosive et tout, il vaut mieux se taire et prier pour cette personne. Le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible. Ah ben là-dessus, je vais vous dire quelque chose. Vous l'avez, c'est à la page 14. Écoutez bien ça, mais je vais vous la lire. Je trouve que c'est une très belle question. Dieu ne commande pas l'impossible. Quand il donne des ordres, parce qu'en fait, quand Mme Groslot vient me dire ça, cela suppose que l'Esprit-Saint m'aurait averti de le faire. Il faut que je sois certain, que je discerne que c'est bien le Saint-Esprit qui m'inspire de faire cette démarche. Tant que je ne suis pas certain que c'est le Saint-Esprit, je dois me tenir tranquille. L'agir du Saint-Esprit est important dans nos vies. Écoutez l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas facile de discerner. Est-ce bien le Seigneur qui m'inspire ou est-ce que c'est pas? Parce que c'est une personne très chère que j'ai envie de le faire. Il y a une différence. Il faut vraiment que ce soit l'Esprit-Saint qui nous l'inspire. Alors, quand il donne des ordres, le Seigneur, ça suppose que c'est comme un impératif qui vient du dedans, qui en même temps nous conserve profondément dans la paix. Parce que c'est jamais facile d'aller faire une démarche vis-à-vis quelqu'un puis que ça semble être un reproche. C'est jamais facile. Alors, il faut être certain qu'on est prêt à recevoir tous les coups, si on est certain que c'est le Seigneur qui nous le demande. Il faut être prêt à accepter d'en souffrir la démarche. Donc, quand il donne des ordres, il nous engage à faire ce qui dépend de nous et à lui demander ce qui dépasse la mesure de nos forces. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est parce que ici, ça a une référence aux commandements de Dieu. Ça a une référence, les commandements de Dieu que le Seigneur nous demande d'observer, il en donne la grâce. Mais si dans notre tête, je trouve qu'il y a un commandement qui me dépasse, je le trouve trop dur. » Ben, il dit, « Alors, viens, il vient à notre secours et nous rend capables d'accomplir ses commandements. » Dans le cas que vous m'avez posé comme question, si vraiment c'est sa volonté, il va vous donner la grâce de l'accomplir dans la paix, dans le tact, la sagesse, puis la finesse, je pourrais dire, pour éviter tout ce qui pourrait aller contre une action qui va aider l'âme à pardonner. Est-ce que ça répond? Bon, parce que c'est important, ça. Ça peut arriver dans notre vie, toutes sortes de situations comme ça. Nous, on parle fréquemment l'écoute de l'Esprit-Saint, parce que je vous ai parlé au début, l'Esprit-Saint vit en nous. Il gémit en nous. Il parle en nous, je dirais aussi, sans parole, mais parfois par la parole. Il avait dit un jour à Thérèse d'Avila, alors qu'elle était énervée, puis qu'elle était bourrée dans son imagination et dans sa tête de tous les combats inimaginables, elle c'était un enfer. Elle dit, « Viens, mon secours, Seigneur! » Puis tout d'un coup, elle dit, elle entend, « Ne crains pas. » Seulement que cette parole, elle dit, tout s'est évanoui. Tout est parti d'un coup sec. Puis c'est la paix de l'âme qui est arrivée. Il faut croire à ça que le Seigneur intervient dans nos vies de cette manière-là. Mais ce qu'il est capable de faire quand on a une tempête, il est capable de le faire chez quelqu'un qui a une rancune. C'est à nous de supplier le Seigneur. Et c'est ça qui touche à la communion des saints. Quand on se réunit, qu'on prie ensemble pour une personne, sans la nommer, bon Dieu, il les connaît toutes. On n'est pas obligé d'aller mettre sur la place publique le nom de la personne. Mais lui, il connaît le fond des cœurs. Puis, il va intervenir. Mais c'est toujours la question, quand tu pries, n'hésite pas. Aie foi en sa parole. Aie foi que le Seigneur a dit tout ce que tu vas me demander. Mais tout, là, ça fait partie des gens qui sont poignés avec la rancune, comme on dit en bon québécois.
Pour aider Madame à comprendre la question sur la rancune, le Seigneur, dans sa parole, il vient dire ceci. « Si, en présentant ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis reviens, et là, ton offrande va m'être agréable. Je vais l'agréer. Ton offrande, elle va te justifier. » Alors, c'est pour ça que c'est important, la démarche que Jacques souligne pour tout chrétien de pardonner, elle est inscrite dans notre Père. Et cette démarche-là étant faite, Dieu entend et exauce toutes les prières qui lui sont adressées.
Ça marche? Alors, pour au moins vous donner, j'espère, le goût, parce que je vois que l'heure passe, j'ai pas grand temps. Allez à la page 6 et je vais me trouver à entrer un peu dans ce qu'on appelle la prière d'oraison. Je vous avais dit ça tout à l'heure, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, j'ai voulu me servir de la vocation d'Isaïe et j'ai voulu m'en servir pour parler de la mission. Chacun de nous, le Seigneur, nous donne une mission, certainement celle d'être une lumière au milieu du peuple, de donner le bon exemple par une vie pleine de foi et, je dirais, d'œuvre, hein, l'accomplissement d'une charité en esprit et en vérité qui est vraie. J'ai marqué « Vocation d'Isaïe ». Je vais vous lire plutôt le texte tout de suite au numéro 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur Yahvé assis sur un trône. Je vis. » C'est quelqu'un qui est en prière. Rien n'est impossible au Seigneur. Et rien n'est impossible pour peu importe la personne qui vit avec nous et qui est autour de nous. Le bon Dieu, il peut faire des folies avec chacun de nous. Ce n'est pas réservé à une élite. Il faut bien se rentrer ça dans le cœur. Tout le monde, le Seigneur peut les visiter d'une manière ou d'une autre. Ici, Isaïe, on dit « Vit le Seigneur Yahvé assis sur un trône élevé ». C'est une vision. Sa traîne remplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes. Deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Vous avez un peu l'image d'un séraphin qui s'est déjà présenté aussi à Saint François, puis qui a eu les stigmates. Ce séraphin avec des ailes, un ange. C'est une vision. C'est la personne, une personne comme vous autres, comme moi, que le Seigneur, gratuitement, se montre. Mais une vision, ce n'est pas Dieu face à face, c'est une vision. Parce que si on voyait Dieu face à face, on mourrait. C'est dit dans les textes des Écritures, on mourrait sur le champ. C'est trop fort. Mais une vision, c'est possible. D'ailleurs, notre Seigneur, quand il était au jeûne, dans le désert, c'est des visions qu'il y a eues. Quand il s'est fait transporter sur le pinacle tu vois-tu tout l'univers, là? Je vais tout te donner ça, là. C'est une vision, il était dans le désert. Même Saint-Jean Chrysostome vient dire, c'est une vision qui a permis, qui a accepté d'avoir du diable. Donc, le diable aussi peut faire des visions. Mais là, je vous parle que c'est le Seigneur qui fait la vision. Et les anges se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, 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 Yahvé, Sabaoth, sa gloire remplit toute la terre. Imaginez-vous si chacun de vous recevez cette vision, d'un coup sec comme ça. C'est un éclair. Les gonds du seuil vibraient à la voix de celui qui criait et le temple se remplissait de fumée. C'est Isaïe qui parle de tout ça, ce qu'il a vécu. Alors il dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans la prière d'oraison, quand il vous arrive de prier, Dieu visite l'âme d'une manière ou d'une autre. Et quand c'est lui qui visite, il donne le sentiment de notre indignité face à une si grande grandeur, celle de Dieu. Les fruits qu'on vous a parlé au début, ça c'est des fruits. Les fruits qui découlent d'une prière, c'est le sentiment de notre indignité, de notre limite. Non pas par dépit, non. Ça vient comme ça. Pas parce que vous avez réfléchi avant, non. Comme ça. C'est une grâce du Saint-Esprit qui est donnée à l'âme. Et l'âme, tellement éblouie devant cette visite, qu'elle s'exclame. Qu'est-ce qu'elle dit? Malheur à moi, je suis perdu. Comment cette vision est forte pour l'âme? C'est pour que vous vous y prépariez, vous savez, pour qu'un jour vous venez nous dire, ben vous savez, j'ai eu une belle petite visite. Écoutez bien, car je suis un homme aux lèvres impures. C'est toute la condition de l'homme, son sentiment profond. Comment qu'il se sent misérable face à une si belle grandeur, le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il a entendu Saint, Saint, il avait sa gloire remplie toute la terre. On n'est pas capable, avec notre intelligence, de tout voir la gloire de Dieu. Mais par l'Esprit-Saint, oui. Et ça, il faut désirer que le Seigneur nous fasse voir sa grandeur, sa beauté, sa bonté, sa miséricorde, comme vous avez dit tout à l'heure, de nous la faire découvrir. Parce que ça va créer en nous, malgré nous, le sentiment de notre petitesse puis de la grandeur de Dieu. Les effets de la prière, là, c'est ça que je suis après vous parler. De vivre dans la prière, là, ça conduit à ça. Bon Dieu n'est pas contre ça. Il veut nous faire avancer pour vivre en sa présence. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. C'est qu'en même temps, il fait connaître à l'âme les difficultés du peuple, la misère de l'homme. Puis il pousse l'âme à se sacrifier pour que les autres puissent profiter de la grandeur de Dieu et de sa bonté. C'est ça que ça produit la prière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabaoth. Il déparle. Parce que s'il avait vu le roi tel quel, le Seigneur des Seigneurs, il serait mort sur le champ. Mais il a eu le sentiment de voir Dieu. L'un des séraphins vola vers moi tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Vois, ton, ceci a touché tes lèvres. Ton péché est effacé, ton iniquité est expiée. » C'est, dans ce texte, c'est toutes des étapes de la vie d'une personne qui est manifestée dans un texte. Ça ne s'est pas fait tout en même temps, ça. Les effets dans l'âme. Il se fait dire, et le Seigneur fait comprendre au fond de l'âme, qu'il lui a touché les lèvres avec une braise, les lèvres du cœur. C'est la purification, c'est l'épreuve. Dans toutes nos vies, nous avons des épreuves, nous avons des tentations, nous avons des contradictions, des maladies. Mais tout ça, c'est la braise de l'ange pour nous purifier. C'est ça qu'on retrouve. Le Saint-Esprit, quand il a fait écrire ces textes-là, vous savez, il nous fait lire beaucoup plus en profondeur l'intérieur, le texte. Quand vous voyez deux oranges, les oranges sont pleines de picots à l'extérieur, mais vous ne voyez pas l'intérieur. L'intérieur, c'est le jus, ce qu'il y a de plus meilleur, c'est ça qu'on prend. À l'intérieur de ce texte, le Saint-Esprit vient nous faire puiser à l'intérieur du texte pour découvrir pour chacun de nous ce qu'il veut s'unifier à notre âme. Et quand on connaît un peu les Écritures, on voit que c'est vrai que la croix purifie, que la croix rachète, que la croix sauve, que la croix, c'est une intercession pour toutes sortes de faveurs qu'on veut obtenir. Alors, il faut apprendre dans notre prière à être pénétré d'actions de grâce. Et là, c'est pas facile. Merci Seigneur pour l'épreuve. Merci Seigneur pour la contradiction, pour la purification que tu permets à mon cœur. Parce que quand même on a une chose extérieure, c'est le cœur qui souffre. C'est l'esprit qui souffre. C'est les deux. Alors, la purification qui nous est imposée, elle vient avec les merveilles de Dieu. Ce n'est pas sans merveille. La croix n'est pas sans merveille. Les deux. Vous avez les merveilles et vous avez la croix qui vient. Vous avez la croix et les merveilles qui suivent pour nous faire entrer davantage dans son mystère, dans les mystères de sa grâce, puis de sa parole. Après, qu'est-ce qui arrive? La purification rend prompt l'âme, rend prompt une personne, c'est-à-dire vif, elle est prête à tout. Qu'est-ce qu'elle entend au fond de l'âme? L'appel de Dieu. J'aimerais ça que tu sois à mon service. J'aimerais ça que tu te dévoues. J'aimerais ça que tu fasses la démarche pour aller aider une personne qui ne peut pas sortir de son trou. Si tu n'y vas pas, elle va rester dans le trou. Là, le Seigneur vient dire, j'aimerais maintenant. Regardez bien. Qui enverrai-je? C'est le Seigneur qui parle. Quel sera notre messager? Qu'est-ce que vous voyez dans un texte de l'Ancien Testament où il est dit « notre messager » et non pas « mon messager » C'est que la Trinité se révèle ici. Notre messager. Dieu trois fois saint qui parle. Et que le prophète entend, que l'âme entend. Et là, qu'est-ce que il répond? La promptitude de la grâce, la promptitude de la purification de l'épreuve, ça rend l'âme à ce point prompte qu'elle dit, « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. » Et la prière pousse l'âme à s'abandonner totalement entre les mains de Dieu pour lui dire, « Fais de moi ce que tu veux. » Amen.